Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue au Centre Pompidou. Merci d'être venu ce soir donc à cette soirée qu'on a appelée La vie écrite des jeunes. C'est un titre un peu sibyllin qui regroupe un spectacle, tout d'abord, La convivialité, par la compagnie Chantal et Bernadette, qui va tout de suite vous présenter le principe. Puis un débat animé par Xavier Delaporte, qui vous présentera également les intervenants. Voilà, le spectacle dure à peu près 25 minutes. Et il y aura une très courte pause entre les deux. Mais il est préférable que vous ne quittiez pas la salle, puisque ce sera vraiment une pause de moins de 5 minutes. Voilà, merci.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, je m'appelle Jérôme Piron.
Et je m'appelle Arnaud Hout.
Et donc, on est ici ce soir parce qu'on a écrit un spectacle qui s'appelle donc La convivialité. Et on nous a proposé de venir faire ce spectacle ici. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le spectacle qu'on va vous présenter est prévu pour un public de 10 personnes. Et on recrée mon appartement à l'identique à chaque fois qu'on joue dans différents lieux.
On l'a fait dans une bibliothèque, dans un magasin, on l'a même fait chez des gens.
Oui, ou dans des bureaux aussi. Et l'idée, c'est de recréer le cadre d'une soirée avec des amis et de demander aux spectateurs de prendre place avec nous autour de la table.
Et alors, on a disséminé toute une série d'objets dans l'appartement pour illustrer notre propos.
Voilà. Alors, évidemment, quand on nous a demandé de faire ça sur une scène vide devant 150 personnes...
On a dit « ben non ».
Et puis après, on nous a dit que c'était le Centre Pompidou.
Alors on a dit, ben oui.
Et donc, vous allez assister à une adaptation de ce spectacle. Et pour cette adaptation, nous aimerions que quelques personnes, quatre personnes, nous rejoignent sur scène pour qu'on puisse les prendre comme interlocuteurs privilégiés. Voilà, alors s'il y a des gens qui veulent monter avec nous...
Pour vous motiver, on a un verre de vin et des petites saucisses.
Voilà, super.
Venez,
on va vous servir un verre.
Je vous en prie. Alors,
blanc, on a du vin rouge et du vin blanc.
C'est ça la question la plus importante.
Blanc, ou de l'eau blanc, aussi.
Blanc. Toujours, super, toujours blanc.
Il n'est pas très frais.
Il est un peu moins frais. Oui.
De l'eau. Bonjour.
Ça va, il n'y a pas assez de place.
Vous vous mettez là.
Effectivement.
Qu'est-ce que je peux vous servir
voilà. De l'eau, c'est
très bien. Je vais faire deux verres d'eau.
S'il vous plaît. Blanc, rouge, de l'eau. De l'eau, très bien.
Hop,
plutôt blanc.
Ça.
Voilà. S'il vous plaît.
Voilà, moi je prends un peu de l'eau aussi.
Oui, moi aussi.
Bon, je suis vraiment ravi que vous soyez venu passer une soirée à la maison. Bon, on n'est pas vraiment chez moi. Et on n'a pas vraiment toute la soirée non plus. Et on va pas vraiment avoir une conversation.
Et puis ça tombe bien parce qu'on n'est pas vraiment comédien.
Mais par contre, c'est vraiment mes meubles. On a décidé de reproduire mon appartement à l'identique parce que c'est dans ce contexte que Arnaud et moi, on voulait partager quelque chose avec vous.
C'est quoi votre niveau d'orthographe? Vous surveillez votre orthographe?
Oui.
Vous surveillez l'orthographe des autres?
Ça se fait instinctivement.
Parce que nous, on a...
C'est même pas de la surveillance, c'est... J'ai pas vraiment l'attention. Enfin, c'est...
Tout à fait. Oui. C'est... Nous, on a un ami. Il a une orthographe abominable. C'est Kevin. Kevin ?
Ouais ?
Tu sais comment ça s'écrit, régisseur ?
Oui, ça va, ça va.
C'est pour déconner, Kevin. Tu peux rallumer.
L'orthographe sert à déterminer la valeur des gens. On ne juge pas votre orthographe, on vous juge, vous, sur base de votre orthographe. À l'école, au boulot, ou sur Internet. Mais ça, je pense que vous le savez déjà, parce qu'on l'a à peu près tous vécu. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que si on vous juge sur base de votre orthographe, on ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même.
Il ne s'agit pas ici de juger la langue, mais bien son orthographe. La plupart des francophones confondent l'orthographe et la langue elle-même. Mais l'orthographe, ce n'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Et ce n'est même pas l'écriture en termes de style ou de qualité de phrase. C'est le code graphique qui permet de retranscrire, de transmettre la langue. Finalement, l'orthographe n'est qu'un outil au service de la langue.
Un petit peu comme les partitions sont au service de la musique.
Et la question qu'on s'est posée avec Jérôme, c'est si l'orthographe est un outil, est-ce que c'est un bon outil ?
Prenons par exemple le son « s » comme dans « régisseur ». Comment est-ce qu'on peut écrire ce son en français ? On peut l'écrire « s », on peut l'écrire « 2s », « c », « ccdi », « sc » dans « science » ou « ascenseur ». On peut l'écrire « t », les finales en « sion ». On peut l'écrire « x », comme dans « 10 » ou « 6 ». On peut l'écrire « th » dans « forcicia ». On peut l'écrire « sth » dans « isme ». On peut l'écrire « 2c » dans « succion ». Et on peut même l'écrire « sccdi » dans « il acquiesça ». Bon, alors maintenant, si vous voyez la lettre « s » écrite, comment est-ce qu'elle se prononce ? Soit « s », soit « z » entre deux voyelles, ou pas, muette. Donc ça fait un son, 11 manières de l'écrire, une manière d'écrire, 3 façons de le prononcer.
En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Vous avez une lettre, un son, une lettre. Les produits apéritifs qu'on vous propose sont turcs parce que Jérôme habite dans un quartier turc.
À Saint-Josse, tu connais, hein ?
Et en turc, par exemple, le mot mayonnaise s'écrit comme ceci. Mayonnaise. Alors vous avez aussi saucisse.
Alors, mon préféré, je l'ai rangé là. Hop.
Par contre, en français, si on inventait un mot qui n'existe pas, comme par exemple le mot créfition, de combien de manières différentes est-ce qu'on pourrait écrire le mot créfition ? Alors avec Jérôme, on a fait un petit exercice de répertoire. Donc on pourrait potentiellement l'écrire comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela. Au total, on a répertorié 144 manières différentes pour écrire le mot créfition, sans compter les pluriels.
Alors, on se demande toujours comment respecter l'orthographe. Mais l'orthographe elle-même est-elle respectable ? Et si on s'autorisait un regard critique sur la forme orthographique ?
En français, si on écrit le mot crédit, le mot édit ou le mot bruit, on les écrit avec ER pour faire bruiter, éditer ou créditer, mais pas le mot abri.
Pourquoi écrire 10 avec un X qu'on prononce S, alors qu'on écrit une dizaine avec un Z, et qu'on écrit un dixième avec un X qu'on prononce Z ?
Pourquoi est-ce qu'on écrit contraindre avec AI, astreindre et restreindre avec EI, alors qu'ils viennent tous les trois de stringere latin ?
Les pluriels en X, en français, d'où est-ce que ça vient ? En fait, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tous les mots au pluriel prennent la lettre S, en toute logique. Et il y a une finale qui est un peu plus courante que les autres, c'est US. En fait, il y a beaucoup de mots qui ont ces deux dernières lettres parce que ça vient du latin. Et alors, les moines, copistes, pour aller un petit peu plus vite ou pour économiser du parchemin, ont utilisé une abréviation pour ce US final. Je vais vous la montrer. C'était ce signe-là. Voilà, ça vient d'ailleurs de la contraction des deux lettres, du U et du S. Et donc, par exemple, le mot « hibou », qui s'écrivait donc comme ceci, avec un S, comme il a cette finale en US, on lui a appliqué l'abréviation, et il s'est donc écrit comme ceci. Alors, un peu plus tard, des académiciens ont observé les textes, ils sont tombés là-dessus, et ils ont cru qu'il s'agissait de la lettre X. Alors du coup, ils ont rajouté un U pour coller à la prononciation. En fait, ils avaient oublié que c'était déjà dedans. Voilà, et c'est à cause de cette erreur, c'est à cause de la confusion entre ceci et la lettre X qu'on a tous les pluriels en X en français, comme neveux ou chevaux. Viens, mon petit chou, sur mes genoux, je te dis cailloux. Vous vous souvenez, les pluriels en OUX. Alors, pourquoi c'est cette là et pas les autres? En fait, il n'y a pas d'explication. C'est un accident.
Vous vous souvenez probablement aussi de la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, voici la règle. Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, si le complément d'objet direct suit le participe, il reste invariable. J'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi? Pourquoi avant et pas après? Toujours au Moyen-Âge, les mêmes moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, éclairés à la bougie. Quand le moine écrit, par exemple, les pieds que Jésus a lavés, un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi? Les pieds, donc le moine accorde, il n'y a pas de problème. Par contre, quand le moine écrit « Jésus a lavé », il se dit « Jésus a lavé quoi ?» Je ne sais pas, je vais attendre, ça va probablement venir dans la suite du texte. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur le bord du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. À tous les coups, quand le moine est arrivé à les pieds, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Ou alors il n'a plus la place pour gratter la lettre. Et c'est de l'observation de cette erreur particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant et pas après.
Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi? Pourquoi avant et pas après? Pourquoi un X? Pourquoi pas de T? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on accorde, comment on écrit. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi.
Pourtant, l'orthographe, elle ne tombe pas du ciel comme ça, toute faite. Elle a une histoire. Avant le XVIIe siècle, la question de l'écriture de la langue n'intéresse à peu près que les moines ou les imprimeurs. Et ceux-ci vont très tôt être confrontés à un problème. Le français oral est au contact des langues germaniques, pour des raisons géographiques. Et on va voir très vite apparaître un grand nombre de nouveaux sons qui n'existaient pas en latin. Or, les moines n'ont que l'alphabet latin pour les retranscrire. Donc, ils vont faire un peu avec les moyens du bord. D'abord, ils vont inventer des lettres, le J, le K. Et puis, ils vont aussi agglomérer des lettres ensemble, donc créer des digrammes, A-N pour en, O-N pour on, des trigrammes, E-A-U pour O, voire des tétragrammes, A-I-N-G pour un dans parpaing, par exemple. Et les imprimeurs, eux, sont pas fans des agglomérations de lettres parce que ça coûte cher en caractère d'imprimerie, donc ils vont surtout favoriser les accents.
Oui, bref, jusqu'au XVIIe siècle, les gens bricolent, un peu comme ils veulent. C'est le cas, par exemple, de Montaigne ou de Rabelais, qui ont leur propre orthographe. Et ça varie même parfois d'un manuscrit à l'autre. Et ça va jusqu'à Molière, qui, dans une des premières éditions du Misanthrope, écrivait Misanthrope sans H.
D'ailleurs, Molière écrivait orthographe sans H.
Voilà, donc en gros, aujourd'hui, on peut dire que plus personne ne lit Molière dans l'orthographe de Molière.
Et c'est au XVIIe siècle que Richelieu va fonder l'Académie française, qui aura pour tâche de rédiger un dictionnaire pour fixer une bonne fois la norme orthographique. Mais l'Académie va surtout faire de cette norme la marque de l'appartenance à la bonne société, le bon usage. Dans les cahiers préparatoires du premier dictionnaire de l'Académie française, il est écrit que l'orthographe servira à distinguer l'honnête homme des ignorants et des simples femmes. Pourtant, à partir de 1794, quand le premier dictionnaire sort, les Français gardent une certaine distance face à la norme. D'abord, tout le monde n'écrit pas. Et puis, la plupart des grands écrivains s'inquiétaient beaucoup moins que nous de leur orthographe.
Oui, jusqu'au 19e. En fait, il faut vraiment attendre le 19e siècle pour que l'orthographe devienne une norme incontournable. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'apparaît la notion de faute. Il y a... c'est la bourgeoisie montante qui va donner à l'orthographe ses lettres de noblesse. Elle va revendiquer une orthographe délibérément compliquée. L'Académie va d'ailleurs réintroduire à ce moment-là des TH, des PH, des consonnes doubles. Mais surtout, elle va l'imposer à tous. De plus en plus d'enfants vont à l'école et l'orthographe devient le principal critère de sélection des instituteurs. D'ailleurs, tous les concours d'accès à la fonction publique vont passer par une dictée. C'est aussi l'époque de l'avènement des nationalismes. Alors on fait de la langue un enjeu identitaire. On veut un français, le même pour tous, unique et indivisible, à l'image de la République, une et indivisible. L'orthographe comme ciment de la nation.
Et on invente alors un outil encore plus compliqué que les problèmes à résoudre, la grammaire scolaire. La plupart des gens ignorent qu'il existe plusieurs sortes de grammaire. D'abord, les grammaires scientifiques, celles des linguistes, qui étudie la langue comme un biologiste étudie les êtres vivants, par l'observation. Et la grammaire scolaire, qui n'est en réalité qu'une méthode destinée à éviter de faire des fautes d'orthographe, mais qui est totalement pseudo-scientifique. Imaginez une seconde, Albert Einstein en chaire universitaire affirmait E égale MC carré, sauf, et bam, 20 pages d'exception.
Vous savez que le complément d'objet direct, par exemple, n'a été inventé que pour parvenir à faire ce fameux accord du participe passé avec avoir. Si vous demandez à un Anglais, par exemple, ce que c'est un attribut du sujet, une épithète détachée, un complément circonstanciel de manière ou de moyen, en fait, il n'en aura pas la moindre idée, parce que ces notions n'existent qu'en français.
Et ce ciment de la nation qu'est l'orthographe a particulièrement bien pris, puisque depuis le milieu du 19e siècle, l'orthographe française n'a pratiquement plus bougé, contrairement à la plupart des orthographes européennes. À chaque fois qu'on a tenté d'y apporter quelques légères rectifications, modifications, elles ont échoué. Elles ne sont pas d'application. Elles ont échoué parce que l'opinion publique s'y est toujours massivement opposée. L'opinion publique, c'est nous.
Les gens invoquent, par exemple, le langage SMS pour stigmatiser un français qui serait devenu complètement phonétique ou illisible. Mais en fait, il n'a jamais été question de ça. On appelle ça un faux dilemme. Ce n'est pas parce que vous surveillez votre consommation d'énergie que vous êtes obligé de vous éclairer avec une bougie. En plus, le langage SMS est relativement chaotique, anarchique. Donc, il ne peut pas servir de référence si on souhaite une orthographe plus cohérente.
En réalité, quand on projette de modifier l'orthographe, on a surtout le sentiment qu'on va s'attaquer à notre héritage. Si on prend par exemple les consonnes étymologiques, les TH, les PH qui viennent du grec, y toucher, ça serait comme s'attaquer au patrimoine. D'une certaine manière, se couper d'une partie de l'histoire de notre langue. Mais en fait, cette histoire est largement fantasmée. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a conservé principalement que les consonnes étymologiques latines et grecques? Parce que c'est classe. Parce qu'on voudrait croire qu'on ne descend que de l'Antiquité. Mais en réalité, on a évacué toutes les consonnes étymologiques germaniques, de l'italien ou encore de l'arabe. Rien que ces trois langues-là, c'est déjà 35% des emprunts en français.
Oui, en plus, le choix des consonnes étymologiques qu'on a gardées ou qu'on a réintroduites, ça a été fait sans logique, sans volonté de système, un peu n'importe comment. Par exemple, à quelle étymologie se rapporte le « d » de « poids » alors qu'on dit « peser » et que ça vient de « pensum » en latin? Si on souhaitait respecter l'étymologie, on devrait écrire le mot « style » comme ceci, parce que ça ne vient pas du grec, ça vient du latin « style ». Par contre, il y a un mot qui vient du grec, c'est le mot « économie ». Et donc, pour respecter son origine, on aurait dû l'écrire comme « fœtus ». Ou « ésophage », ou encore le mot « trône » qui vient lui aussi du grec. et qui aurait donc dû, en toute logique, conserver son H, comme il l'a fait en anglais.
En plus, est-ce qu'on peut sérieusement accuser l'italien ou l'espagnol de souffrir d'un déficit culturel ? En italien, on écrit téléphone avec F depuis toujours, et ça n'a jamais empêché les Italiens de faire de l'histoire de leur langue, de retrouver les étymons, téléphoner.
Ça permettrait même de dégager un peu de temps pour pouvoir faire cette recherche.
Tout ce temps qu'à l'école, on pourrait consacrer à s'intéresser aux origines réelles, non fantasmées du français. Le mot nénuphar, dont on a beaucoup trop parlé récemment, vient en réalité du persan, donc de l'arabe. Il n'y a absolument aucune raison de lui mettre un PH. C'est parce qu'un académicien, au début du siècle, l'a confondu avec nymphéa, qui lui a rajouté un PH grec.
Bon, alors on peut aussi trouver que c'est beau parce que c'est compliqué. On peut appeler toutes les absurdités de l'orthographe, on peut appeler ça des subtilités, et être fier de cette spécificité du français. On peut tout à fait trouver qu'une chaise, c'est plus beau qu'une chaise.
Et pour pousser la logique de la difficulté de l'orthographe française un cran plus loin, le collège de pataphysique de Boris Vian, Alfred Jarry, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, avait imaginé à l'époque ce qu'ils appelaient une orthographe d'apparat. Alors, qu'est-ce que c'est une orthographe d'apparat ? Avec Jérôme, on a confectionné un petit module de reconnaissance vocale en orthographe d'apparat. Et dans cette orthographe, par exemple, le son A s'écrirait comme dans doigt. Le son R comme dans diarrhée. Le son O comme dans album. Ou enfin le son T comme dans nightclub. Ce qui donne, par exemple, pour projet d'orthographe d'apparat, voilà, alors nous on est favorable à la complexité du français, donc la morphologie, la syntaxe, le lexique, tout ce qui donne la richesse à la langue française, mais on refuse de confondre ce qui est complexe et ce qui est inutilement compliqué.
Bon, il y a quand même une autre raison de défendre une orthographe aussi compliquée, c'est le sens de l'effort. Comme c'est compliqué, c'est exigeant. Et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais on ne va pas faire moins, on va faire mieux.
Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien.
Tout le temps de mémorisation mécanique, d'exception, annonné, pou, hibou, caillou, pourrait être converti en temps de pratique, en temps de découverte, de réflexion, ou d'histoire de la langue. Donc, en un sens, la simplification peut constituer un nivellement par le haut.
La place que l'orthographe occupe dans nos vies, elle commence à l'école. C'est la faute d'orthographe, pas l'erreur d'orthographe. Et en fait, à l'école, on passe très facilement du mal faire au mal être. Il fait des fautes, il est distrait. Finalement, la dictée, c'est un petit peu comme si, pour vous apprendre à conduire, l'instructeur de l'auto-école vous collait des contraventions.
Et on ne vous lâche pas. Dans certains manuels de français, il est indiqué que le but à atteindre est un état de vigilance orthographique permanent. État de vigilance orthographique permanent. Hein, donc, en gros, il est dangereux de ne pas constamment surveiller son orthographe. En fait, ça met plutôt les enfants dans un état qu'on appelle l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est ce qui provoque la petite peur que vous pouvez avoir quand vous appuyez sur « Envoyer » dans la boîte mail. En plus, dans cet état, le cerveau des enfants n'est plus disponible pour rien d'autre, parce que vous ne pouvez pas simultanément penser à ce que vous voulez dire et à la manière de l'écrire.
Et après l'école, la question de l'orthographe touche évidemment aussi celle de l'accès à l'emploi. Dans ces cas-là, on sait ce que coûte une faute aujourd'hui. Et puis vous imaginez si ce n'est pas votre langue maternelle. Et puis on utilise aussi beaucoup l'orthographe pour disqualifier une pensée. Sur Internet, très souvent, on voit des gens écrire « Va d'abord soigner ton orthographe, et après, tu te permettras de donner ton avis. » Bref, l'orthographe est un moyen de discrimination.
Et ce n'est possible que si cette orthographe est sacrée. Le bon usage devient la Bible, et tout ce qui s'y trouve, c'est parole d'Évangile.
Si c'est dans Becherel, ainsi soit-il.
Simplifier l'orthographe, ce serait appauvrir la langue. Donc ça signifie lui faire perdre de la valeur. Mais en fait, de quelle valeur est-ce qu'on parle ? Parce qu'à travers l'orthographe, on interroge une vision complète de l'école et de la société.
De quoi on a envie ? D'un outil pour pratiquer la langue ou d'un objet de prestige ? Est-ce qu'on veut un enseignement d'excellence par la maîtrise de l'outil ou un enseignement élitiste par héritage ? Finalement, est-ce qu'on veut enseigner ou inculquer une orthographe ?
Avoir un regard critique sur la forme orthographique. Ne pas en faire un dogme. Rendre la langue plus accessible à l'intelligence des gens constitue en quelque sorte un geste démocratique.
Qu'est-ce qui a moins de valeur dans le code orthographique ? Ce qui est arbitraire. Pourquoi ça a moins de valeur ? Parce que c'est là que l'intelligence s'arrête.
Le marteau est un outil percuteur servant à aplatir une plaque de métal ou à enfoncer un clou. Il agit par inertie, augmenté par la longueur du manche et celle du bras du manipulateur. Il est composé d'un œil, d'un endroit, d'une table, d'une peine, d'une tête et d'un manche. Il remonte, comme le couteau, à la plus ancienne préhistoire.
Imaginez que ça s'arrête là, la description de l'outil. On passe des heures et des heures, avec Jérôme on a calculé, en moyenne 80 heures, rien que pour le parti passé. On vous demande de temps en temps d'enfoncer un clou, mais on ne vous demande pratiquement jamais ce que vous avez envie de construire.
Quand un outil n'est plus au service de l'homme, mais que c'est l'homme qui est au service de l'outil, il a alors dépassé ce qu'on appelle son seuil de convivialité.
Vous surveillez votre orthographe ?
Surveillez l'orthographe des autres ?
Pourquoi ? Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé à la maison et repasser quand vous voulez.